Mathieu Roy, bonjour.
Salut Louis.
Alors revenons sur la grosse panne de chez Garmin, en fait, qui est due à une espèce de ransomware, là, où c'est une prise d'otage, littéralement, là, dont ils ont été victimes.
Ah, on cherche toujours le mot en français, hein? Ouais. C'est rançongiciel.
Ah, rançongiciel, voilà, c'est
exactement. Ça. Exactement. Ce qui est arrivé, c'est que donc, on a un peu paralysé le réseau interne de chez Garmin et en échange de la solution, on demande le versement d'un montant d'argent. Et écoute, c'est un problème qui dure depuis mercredi. On en a parlé en fin de semaine.
Parce c'est que pas revenu encore, là?
C'est pas revenu. Écoute, moi, j'ai fait mon jogging le long de la rivière Saint-Charles à Québec ce week-end.
Oui.
Impossible de téléverser comme ça mon parcours. Et on dit parfois, est-ce qu'une course non publiée sur Facebook est vraiment une course, mon cher Louis?
Voilà.
Alors, telle est la question.
C'est comme si tu n'avais pas couru. Dans le fond, tu as tout fait ça pour rien.
Complètement. Non, mais je ne suis pas quelqu'un qui publie beaucoup, en fait, même très, très peu, mes courses à pied. Cependant, j'aime avoir ma base de données, savoir combien de kilomètres j'ai couru par semaine, par mois ou par année. Question de savoir si je tiens toujours la forme, si le poids des années se fait sentir ou non. Mais ce qui est quand même assez fascinant et préoccupant là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de services donc qui fonctionnent pas. On parle de certaines sections du site web, l'application Garmin Connect et je lisais aussi Garmin Pilot qui permet de planifier certains vols en aviation. Donc, c'est vraiment très préoccupant. Pour l'instant, samedi, chez Garmin, on a dit qu'il n'y avait toujours pas d'indices ou d'informations qui laissaient croire que, mis à part le non-fonctionnement de certains services,
oui.
Mais rien laissait croire que ça avait touché les données, les activités, les données de paiement ou les informations personnelles des abonnés ou de ceux qui ont un compte chez Garmin. Donc, pour l'instant, semblerait, rien n'indique que ces données-là aient été touchées, sauf que c'est quand même extrêmement préoccupant parce que là, tu te dis, ben, on pourrait peut-être les appeler. Eh bien non, parce que cette panne touche aussi les centres d'appel chez Garmin. Ils ont même de la difficulté à répondre à certains courriels et conversations en ligne. Bref, ça a l'air d'être, permets-moi l'expression, un beau bordel chez Garmin.
Mais est-ce que, par exemple, parce que Garmin, là, eux autres, ils ont commencé, ils faisaient des GPS pour monsieur tout le monde, là, monsieur, madame tout le monde, mais ils sont rendus maintenant dans à peu près tous les avions de la planète qui sortent des usines maintenant utilisent des systèmes souvent ceux de Garmin, là, avec des écrans, par exemple, au lieu d'avoir des cadrans, c'est des écrans. Garmin a une suite qui est très, très, très populaire, surtout dans les avions de tourisme ou tout ça, mais même dans les avions commerciaux. Est-ce que ça, c'est touché par cette panne-là?
De ce que je comprends, c'est que c'est le site web, l'application Garmin Connect. Pour ce qui est du département de l'aviation plus commercial, j'ai l'impression que là, probablement qu'ils n'ont pas les mêmes mesures, les mêmes moyens.
Peut-être d'autres protections,
oui. Complètement. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment pour surtout tous ceux qui ont des montres d'activité, des bracelets d'activité, mm-hmm. C'est eux qui sont principalement touchés en ce moment. J'ai pas l'indication qui me dit qu'au niveau commercial, aviation, il y a quoi que ce soit qui a été fait. Mais je suis à peu près certain que les protections sont infiniment plus sévères et strictes de ce côté-là. Ça serait un bordel incroyable, ça, c'est sûr et certain. En ce moment, c'est embêtant. Puis oui, effectivement, quand vous ouvrez l'application de Garmin Connect, ça vous dit qu'ils sont en train de faire des exercices de maintenance, mais le ménage va être fait pas à peu près parce que ça fait quand même plusieurs jours que ça dure.
Oui, exactement. Bon, parle-moi de Jaguar qui veut moderniser, si on veut, l'expérience des fameux écrans qu'on retrouve dans les voitures.
Et je t'ai parlé de cette abondance d'écrans tactiles qui me laisse généralement assez froid. À l'intérieur des véhicules, j'ai jamais été, je te dirais, flabbergasté par « Wow! Cet écran tactile-là vient vraiment régler plein de problèmes. On peut pas tout remplacer avec les écrans. J'aime encore des bons vieux boutons. » J'aime pas les écrans quand ça nous demande de quitter les yeux de la route parce que les boutons sont trop petits ou parce que l'interface est pas très bien faite. Et bien là, c'est Jaguar Land Rover et Cambridge University qui développent un écran tactile que l'on n'aurait pas besoin de toucher. Donc là, il va peut-être falloir essayer de trouver un nouveau nom parce que ce serait un écran tactile sans contact, ce qui fait à peu près pas de sens, là. Mais donc, aidé par l'intelligence artificielle, ce qu'on est en train de faire, c'est avec un système de radiofréquence et en utilisant les informations contextuelles qui sont déjà affichées, on peut deviner notre interaction sans qu'on ait à toucher directement à l'écran. Donc, ça réduirait le temps et l'effort des interactions. Ça nous permettrait d'avoir les yeux plus longtemps sur la route. Il y a déjà une vidéo qui a été publiée publié dans les dernières heures, qui nous montrent comme ça certains tests qu'ils ont faits. Ça semble être très intéressant et bien sûr qu'on pense aux écrans dans les véhicules, mais ça pourrait être aussi pour les boutons d'ascenseur, les caisses automatiques dans les épiceries, les guichets automatiques.
En cette période de COVID où t'as peur de toucher à peu près à tout, là, tu sais.
Ben, écoute, c'est plus hygiénique et c'est plus prudent. Et encore une fois, bien que je sois un grand enthousiaste devant la technologie, remplacer les boutons par des écrans dans les voitures, c'est pas encore tout à fait la meilleure des solutions dans certains cas. Moi, mon bouton volume puis mon bouton gauche-droite là, pour le son, j'aime encore que ça soit un bouton et pas nécessairement remplacé ou caché dans un menu un peu obscur là.
Oui, mais malheureusement, il y en a de moins en moins. C'est beaucoup plus les écrans cathodiques là, qui ben pas cathodiques, là, mais qui mènent nos voitures de plus en plus.
Mais bon. Louis, on est écouté, puis je suis certain qu'on a un poids incroyable auprès des fabricants automobiles.
Surtout chez Jaguar et l'Université de Cambridge, ils nous écoutent tous les matins.
Mais j'aime quand même qu'on essaie des nouvelles choses, puis on essaie d'avancer le progrès.
Exact. Fuite de documents chez Nintendo.
OK. Tu as déjà certainement vu au cinéma, ça existe, ce qu'on appelle les Director's Cut, donc les versions du réalisateur, où des fois, on va nous parler ou on va nous montrer des scènes qui ont été coupées au montage, faute de temps ou parce que l'esprit créatif n'était plus le même. Eh bien là, il y a une fuite vraiment hallucinante, d'ailleurs qui est toujours un peu considérée obscure parce qu'on se demande si c'est une véritable fuite, mais tout porte à croire que oui. Donc, ça montre plusieurs secrets sur les jeux de Nintendo et des jeux prototypes et même des séquences qui n'ont jamais été utilisées. Je vous explique, ça pourrait être Luigi qui se retrouvait, semble-t-il, dans Super Mario World ou Mario 64. Des niveaux qu'on n'a jamais vus, mais qui avaient été créés à l'époque. Un Yoshi, le petit dinosaure, avec une moustache, donc un peu plus âgé. Un personnage féminin dans Star Fox 2. Bref, Internet en ce moment, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais moi, je suis inondé par des images de capture d'écran qui laissent supposer des grosses fuites de chez Nintendo. On questionne la véracité de la fuite, mais pour l'instant, ça semble être assez réel. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a suffisamment d'informations en ce moment que des fans ou des geeks spécialisés en émulation pourraient utiliser ces données-là et ce travail-là pour recréer des tableaux qui seraient jouables ou encore des jeux au complet qui seraient jouables en carrément les recomposant. Donc, évidemment, ça soulève des tonnes de questions sur la propriété intellectuelle aussi puis sur l'héritage de Nintendo là, qui devient un peu embrouillé. Mais ce qui est plus grave là-dedans, cependant, c'est qu'il y a des archives aussi qui donneraient, semble-t-il, accès à des discussions entre les développeurs puis des documents plus personnels. Okay. Mais c'est bien bizarre de voir que, un peu comme on fait des fois au cinéma, c'est-à-dire qu'on vous présente des scènes coupées, bien ici, on pourrait nous présenter dans un avenir rapproché sur un Internet un peu flou, bien des tableaux qui auraient été coupés au montage aussi.
Oui, mais moi, j'ai de la misère à croire aux fuites dans ces affaires-là. Souvent, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme...
Couler, ça s'inscrit dans un dessin marketing.
Ouais.
Mais ici, ça a l'air d'embêter Nintendo. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pas leur... Eux autres, ils aiment beaucoup contrôler ce qui est pas censé être, par exemple, dans le jeu comme tel. Mais encore une fois, ça pourrait être aussi simplement du travail de fans qui se sont amusés avec tout ça. Mais bref, je suis le dossier du coin de l'œil si jamais il y a du nouveau.
Bon, et suggestion rapide pour les amoureux de baseball, là, le compte Twitter de la Major League Baseball.
Oui, parce que aussi conservateur que puisse être le baseball, sur leurs médias sociaux, ils sont très créatifs. Je me souviens, par exemple, dans les dernières années, on pouvait voter pour un joueur vedette et chaque fois qu'il se présentait au bâton, Twitter, sur leur compte Twitter, on tombait en direct sur les activités de ce dit joueur. Donc, durant la journée, les gens votaient pour savoir quel joueur on voulait voir en vedette le soir venu. Donc, des petites choses comme ça qui gardent le verre vivant, là, comme à la pêche. Mais ce week-end, aïe, c'était rigolo de suivre ça parce que, évidemment, en ces temps de COVID, rien n'est normal et on pouvait voir un peu partout sur les publications du baseball majeur les fans en carton qu'on pouvait retrouver dans les amphithéâtres, dans les stades. Et là, on pouvait voir des chiens, des chats. On a même recréé des photographes en carton. On a même vu une fausse demande en mariage. Là, ça m'a fait quand même plutôt rigoler. Des célébrités cachées un peu partout. C'est pas des farces. À un moment donné, je me disais, on est presque dans l'univers de Où est Charlie? Parce qu'il y avait plein de bons gags de cachés comme ça dans la foule. Et évidemment, on pouvait voir aussi le port du masque. Il y a des frappeurs qui le portaient, joueurs de premier but, receveurs. et des
les receveurs
moments...
portent souvent le masque.
Oui, oui, le masque, mais il filtre pas grand-chose.
Non, il filtre pas grand-chose. Les balles. Avait...
C'est ça, exact, les balles. Mais là, c'était vraiment le masque, là, le couvre-visage. Oui. Et des moments COVID comme des air célébrations, des joueurs qui se tapent pas dans la main à 2 mètres de distance. Et attention, mon moment favori, dans un match entre les Pirates et les Cards, une engueulade entre le gérant et l'officiel. Évidemment, une engueulade masquée. Écoute le moment surréel.
Now, part of an argument is you got to put on your mask and stay socially distanced. You can't get toe-to-toe in these arguments.
Ah oui, c'est ça, il dit. Le commentateur dit, justement, une querelle comme ça, il faut que tu mettes ton masque puis tu peux pas t'approcher trop. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils se lancent du sable, tu sais.
Hey, pied à pied, là, puis là, l'autre est en train d'y envoyer du sable dans les souliers, puis ça se parle à 2 pouces de la face, à se postillonner comme c'est pas permis. C'était... complète. Écoute, c'était un moment COVID. Écoute, bon, c'est à la sauce 2020. Ça ne pourrait pas être autrement.
Merci Mathieu, à demain.
Salut, à demain.
Salut.